Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, l'émission 100% vin et boisson de Divergence FM. Aujourd'hui, on change un peu du vin, mais pas tant que ça. On part à la découverte du café, mais pas n'importe lequel, le café de spécialité. Un café noté, dégusté, tracé. Un café où, comme dans le bon vin bio et artisanal, tout compte. Le terroir, la variété, la façon dont il est cultivé, torréfié et même préparé dans la tasse. Depuis quelques années, maintenant à Montpellier, une vraie scène du café s'est développée. Des coffee shops pointus, des torréfacteurs engagés, bref, une nouvelle culture du goût. Pour comprendre tout ça, on est allé à la rencontre de Luc Béor, le fondateur du Café Boone, l'un des pionniers du café de spécialité ici, installé en plein centre-ville. Avec lui, on va plonger dans cet univers de passionnés, comprendre ce qui fait un bon café et surtout repartir avec quelques clés simples pour mieux boire chez soi et en ville. Alors vous pourrez pousser la porte du Café Boone, d'ADN Café, Café Court, Polanka, Iconca, ADN Café, De La Sierra ou Cool Drip. Mais surtout, écoutez d'abord cette émission. Merci à vous et bonne écoute.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
Alors Luc, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en fait, qui es-tu?
Alors du coup, moi c'est Luc Béor. Et deux bars à café à Montpellier, je suis torréfacteur aussi.
Ok. Alors avant d'être torréfacteur entre guillemets, concepteur de café de spécialité, qu'est-ce que tu faisais avant? T'as fait quoi comme études?
Alors moi, j'ai un cursus scientifique. J'ai fait des études et un doctorat en physique à Montpellier. Et donc, j'ai fait de la recherche et de l'enseignement à l'université.
Ok. Dans quel domaine?
De la physique dans l'optique, okay. Optique quantique, précisément.
Ouais. Rien à voir avec le café, alors?
Non, effectivement.
Mais qu'est-ce qui t'a amené, justement, de la physique quantique jusqu'au café?
Alors, le café, c'est une boisson qui m'intéresse depuis longtemps. Je bois du café, comme beaucoup, depuis assez petit, le fameux café au lait avec ma grand-mère. Et en fait, à la fin de mon contrat, donc en 2011... je me suis posé un peu la question de savoir si j'allais continuer dans le domaine. Et du coup, j'ai décidé de prendre le temps. Je suis parti à Paris rejoindre ma compagne en 2012. Et Paris, quand on a du temps, c'est une ville super pour se balader. Du coup, je me suis baladé dans Paris et je suis allé dans les cafés. Et il se trouve que 2011-2012, c'était le début de la nouvelle scène du café, on va dire, donc du café de spécialité, à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré plein de gens dans le café et que je me suis formé à la torréfaction.
D'accord. Dans quel établissement
À Coutume, avec Antoine Nétien.
Ok, Coutume Café, qui est dans le 7e, je crois, arrondissement.
C'est ça, ouais.
Sèvres-Babylone. Ok. Alors aujourd'hui, à Montpellier, le Café Boone, c'est un des pionniers, finalement, du café de spécialité. Et raconte-nous un peu la naissance du lieu, du premier lieu. Comment ça s'est passé?
Alors du coup, en 2012, j'étais à Paris et donc j'ai commencé à travailler dans le domaine, mais avec l'idée rapidement d'ouvrir mon propre lieu. Et comme à Montpellier, j'avais jamais trouvé de lieu qui me satisfasse vraiment, et bien pourquoi pas revenir à Montpellier pour ouvrir une torréfaction. Et donc pendant que j'étais à Paris, j'ai fait pas mal d'allers-retours pour essayer de trouver un endroit où je pourrais à la fois... avoir une torréfaction, un bar à café, aussi une cuisine, etc. Du coup, ça a pris un petit peu de temps pour trouver un local où je puisse faire tout ça, assez bien placé, et puis pas trop cher aussi, on va pas se mentir.
Le nerf de la guerre.
C'est ça. Et voilà, idéalement, je voulais, dès le début, pas être exclusif, donc avoir un endroit où il y a quand même pas mal de passages, et que ce soit relativement populaire et pas ciblé uniquement les geeks du café ni les gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc ça m'a pris du temps de trouver le bon local.
Le bon local et peut-être le bon modèle aussi derrière.
Ouais, alors le bon modèle, comme pas mal de gens qui se lancent, en tout cas moi c'est ce que j'avais fait, je me suis lancé en me disant je verrai bien comment ça va se passer et j'adapterai selon mon envie et l'envie des gens qui vont venir dans mon commerce.
Donc là, aujourd'hui, on est dans le nouveau café, enfin nouveau qui a 2 ans...
3 ans.
3 ans, pardon, boulevard du Jeu de Paume, le long du tramway. C'est mais le premier café était rue des Étuves, derrière la Comédie.
C'est ça.
Et il est toujours là-bas, d'ailleurs.
Il est toujours là-bas.
OK.
Et on a ouvert le deuxième café, du coup, pour fêter les 10 ans en 2023.
OK. Bon, vous voyez, ça résonne un peu, c'est normal, il y a plus d'espace ici. Alors, moi, j'ai une question que j'ai envie de te poser et que, finalement, je me suis posé beaucoup de fois avant, quand j'ai découvert le café de spécialité. C'est quoi concrètement un café de spécialité? Si on devait le résumer vraiment en une minute ou deux à quelqu'un qui aime le café mais qui n'a jamais entendu ce terme.
Alors, la définition à la fois assez simple et comme souvent un peu compliquée. Le café de spécialité, donc, c'est défini par l'ASCA, donc l'association du café de spécialité. Et principalement, c'est défini avec une note. Donc on note sur 100 et tous les cafés notés au-delà de 80 sont appelés cafés de spécialité. Donc il y a des critères gustatifs. Donc dans la note, vous avez tout ce qui est arôme, tout ce qui est équilibre gustatif, tout ce qui est acidité, corps, etc. Et une partie importante de la définition, à mon avis, tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est sur la traçabilité du café.
D'accord.
Il faut quand même pouvoir avoir une traçabilité la plus complète possible jusqu'à, idéalement, la parcelle sur laquelle il est poussé. Alors après, dans le café de spécialité, beaucoup vont mettre d'autres parties dans la définition. Une partie éthique, il faut que dans toute la chaîne, les gens qui ont travaillé pour avoir ce café à la tasse aient été payés convenablement. Une partie durable, une partie écologique. Il y en a même qui mettent une partie torréfaction, voire une partie expérience client.
D'accord, ah ouais.
Voilà, moi je mets surtout la partie gustative et la partie traçabilité évidemment, et quand même la partie éthique pour que, de façon durable du coup, tout le monde qui a travaillé dans cette filière-là puisse s'être payé convenablement.
Ok. Et donc, on peut comparer ça vraiment au vin. Parce que tu parles de parcelles, tu parles d'écologie, tu parles finalement d'une espèce de chaîne de valeur qui va jusqu'à l'expérience gustative. Ça se ressemble avec le vin.
Ouais, à la base, c'est quand même un produit agricole, hein, donc, comme le vin. Donc forcément, il y a beaucoup de similitudes, notamment la notion de terroir, qui est très forte dans le café. La notion de terroir, nous, on connaît bien en France depuis extrêmement longtemps. Et le café spécialité, à la base, ça a été défini aux États-Unis. Et la notion de terroir, pour eux, à la base, c'est pas quelque chose d'aussi puissant que chez nous. Donc, effectivement, dans le café, la notion de terroir, elle est devenue fondamentale dans la notion de café spécialité. De par l'influence de son histoire, en fait, tout simplement.
Ok. Et ça pousse où, alors, un bon café?
Alors, le café arabica, ça pousse, grosso modo, ce qu'on appelle la coffee belt. C'est autour de l'équateur et en altitude. L'arabica, globalement, c'est à 1000-2000 mètres.
D'accord, ok.
Et il faut un climat pas trop froid, pas trop chaud, avec pas mal de pluie, mais quand même une saison un peu sèche. Donc, au final, ça pousse globalement entre les deux tropiques. Quoi.
Ok, d'accord. Et il y a des pays, on va dire, où, je sais pas, un peu comme la Bourgogne dans le vin ou le Bordelais dans le vin, en termes de réputation, des pays plus réputés que d'autres?
Le pays historique du café, c'est l'Éthiopie.
Okay.
C'est là que l'Arabica, a priori, pousse de manière sauvage depuis très longtemps.
Donc sur les pentes du Kilimandjaro, c'est ça, ou pas du tout?
Alors, je crois que le Kilimandjaro...
C'est beaucoup plus au sud.
Voilà.
C'est n'importe quoi. Ok.
Après, dans les très, très gros pays producteurs, en Afrique, vous avez le, dans les cafés d'Arabica, on va dire de qualité, vous avez le Kenya, qui est très réputé.
Et là, il y a le Kilimandjaro, réputé, non?
Voilà, c'est ça. Qui est plutôt réputé pour être l'équivalent un peu du Sancerre. Le Bourgogne serait un peu plus l'Éthiopie pour le coup, voilà, si on veut vraiment aller pousser la comparaison. Après, dans les énormes pays producteurs, vous avez évidemment le Brésil, c'est le plus gros pays producteur, la Colombie aussi.
D'accord, ok. Ok. Et du coup, tu parles d'Arabica, c'est-à-dire qu'il y a différentes variétés de café, on achète souvent du Robusta, c'est quoi la différence?
Alors en fait, vous avez différentes espèces, donc les deux plus connues sont l'Arabica et le Robusta. Et après, dans les espèces, vous avez des variétés. Et donc là, ça va être l'équivalent des cépages. Et nous, dans le café, on parle de cultivar.
D'accord. C'est quoi, c'est le bourbon, par exemple?
Exactement, ouais. Bourbon, geisha, ouais, plein d'autres.
Ok, ok, ok. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un café est bon à la base avant la torréfaction? C'est comme dans le vin, une culture bio, fait main, avec peu d'impact sur l'environnement?
Bah, idéalement, oui. Le principal problème qu'on va avoir avec le café vert, c'est la présence de défauts ou pas. Dans les plus gros défauts, on va avoir des grains, des fruits qui ont été ramassés beaucoup trop mûrs ou pas du tout assez mûrs. On va avoir des grains qui ont été attaqués par les insectes. Ou aussi, on peut avoir des problèmes de moisissure liés à une humidité trop importante, etc.
D'accord.
Et ça, il suffit de un ou deux grains comme ça par tasse pour vraiment que le résultat soit assez catastrophique.
D'accord, ah oui, effectivement. Et c'est quoi la fermentation dans le café alors?
Alors, de façon générale, le café c'est un produit fermenté, ou du moins il y a une étape de fermentation. Et pour faire très court, on passe donc du fruit. Le fruit du café, ça ressemble un peu à une petite cerise. Et nous, ce qu'on va utiliser dans le café, c'est le noyau du fruit. Et pour passer de l'étape du fruit à l'étape café vert, il y a plein de choses qui vont être faites, notamment une étape de fermentation qui se fait soit en milieu sec, soit en milieu humide. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont déjà vu nos paquets de café, paquets chez tout torréfacteur, les voies humides et les voies sèches.
D'accord. Et quelles sont les différences entre humides et sèches?
Alors, c'est toujours plus complexe qu'une phrase, mais globalement, avec la voie sèche, souvent vous avez moins d'acidité. Souvent, vous avez plus de corps. Souvent, mais pas toujours, vous avez un côté plus fermenté, plus fruit, mais plus fruit très mûr. La voie humide, c'est celle qui est préférée historiquement, on va dire.
C'est lavé, c'est ça, non?
Ouais, c'est ça, okay. Lavé. C'est dizaines de dernières années. Et on met un peu plus d'accent sur l'acidité, la propreté de la tasse, entre guillemets, un côté plus tranchant, où généralement, en plus, le terroir s'exprime plus qu'avec la voie sèche, où on a un côté, ce côté, on va dire, fruit, voire fruit très mûr.
Ouais.
Ça a souvent tendance à effacer un peu l'aspect terroir.
Et c'est quelle fermentation? Parce que tu dis, ça fermente, mais c'est quoi? C'est pas une fermentation alcoolique, j'imagine, c'est plus une fermentation aromatique.
Oui, c'est ça, ouais.
Ok. Bon, du coup, le café vert arrive chez toi, tu l'achètes dans les fameux sachets en toile de jute, et tu vas les torréfier. Alors, la torréfaction, c'est quoi?
Alors, en version très simple, c'est l'action simplement de griller le café.
Ok.
Et donc, si vous, à l'occasion, vous avez du café vert et que vous l'infusez, vous le mettez dans l'eau chaude, vous allez remarquer que la boisson qui va en sortir est pas extraordinaire. Ça va avoir un côté, dans le meilleur des cas, végétal, on va dire un peu petit pois. Et dans le pire des cas, c'est le café un peu vieux, un goût très pailleux. Donc, l'action de torréfaction, ça va être de griller donc ces grains. Et l'action de cette chaleur va entraîner beaucoup de transformations physico-chimiques et donc de la création de beaucoup d'arômes, de fruits, de grillés, etc. Et aussi de composés acides, de composés amers, astringents, etc.
Ok. Et comment tu travailles la torréfaction chez Boone? Parce que tu es un torréfacteur, donc forcément, j'imagine, tu as une pâte. Et c'est quoi ton ADN alors?
Alors, moi, dans ce que j'essaye de faire, j'essaie de m'adapter le plus possible au grain et à, en tout cas, ce que je pense être l'expression de ce grain et de ce terroir-là, et donc de ce process-là, etc. Donc, typiquement, par exemple, le café du Brésil, la plupart du temps, là où je trouve qu'ils sont le meilleur, c'est ce côté assez corpulent, cacaoté, très rond, dans le meilleur cas, soyeux. Et donc ça va être lié à une torréfaction, on va dire, moyenne plus. ce que je vais beaucoup aimer dans des cafés de plus haute altitude et beaucoup plus dense, comme les cafés du Kenya, c'est le côté beaucoup plus fruité, voire végétal, et plus acide aussi. Et donc ça, c'est typiquement associé à une torréfaction moins poussée, plus claire.
D'accord, ok. Okay. Est-ce que du coup, on peut rater un café à la torréfaction ?
Alors, oui. Non, il y a beaucoup de manières de rater un café, justement. S'il est très peu grillé, vraiment à peine cuit, entre guillemets, il sera vraiment très peu intéressant. Il aura un côté très boisé. Et en tout cas, à mon goût, vraiment pas très intéressant. S'il est très grillé, voire brûlé, on aura tout ce qui est, pour être poli au début, on va dire cacao très foncé, voire carrément charbon, fumé, etc. Donc l'idée, c'est quand même, à mon avis, de viser entre les deux. Et après, si vous appliquez la chaleur de façon trop brutale à différents moments de la torréfaction, au début, au milieu, à la fin, etc., vous n'aurez pas la même expression aromatique. Et dans des cas, même, vous aurez beaucoup de composés amers, astringents qui vont ressortir. Et c'est plutôt des choses qu'on va éviter.
D'accord, ok. Bon, ce qui m'amène justement à parler un peu du café de spécialité versus café industriel. On ne va pas citer de marque ici parce qu'on n'est pas là pour dénigrer. Et puis c'est normal que les gens ne connaissent pas tous le café de spécialité. Mais c'est quoi la grosse différence entre un café de spé et un café classique de supermarché ?
Alors, généralement, donc, les cafés de supermarché sont quand même des cafés où le café vert était moins bien noté, donc de moins bonne qualité. Vous avez plus de défauts dedans, voire carrément un café vraiment pas cher, des morceaux de branches et autres qui peuvent passer dans la torréfaction. Donc là, vous doutez bien que l'expression aromatique sera un petit peu moins sympathique. Généralement, mais pas toujours, en tout cas dans le milieu du café de spécialité, on essaie de torréfier moins que dans le café industriel.
Donc c'est plus grillé dans les cafés industriels.
C'est ça. Okay. Et donc l'avantage en torréfiant moins, c'est que vous allez plus laisser le terroir et le cultivar et le process, encore une fois, s'exprimer. Plus vous allez torréfier, plus vous allez commencer à effacer cet aspect-là du café qui, généralement, dans le café de spécialité, on aime bien.
Ok. Bon, alors comment on déguste un café comme un pro ? Est-ce qu'il y a une méthode simple qu'on peut faire chez nous ou quand on va dans un endroit comme ici ?
Alors, nous, la méthode pour goûter les cafés, c'est ce qu'on appelle le cupping. Donc, c'est une méthode très standardisée avec beaucoup de procédures pour s'assurer que vraiment ce qu'on goûte, c'est la torréfaction. Ou du moins, si on veut acheter du café vert, le plus possible la qualité du café vert. Mais ça, c'est vraiment, si tu veux, un protocole de travail.
Oui, c'est pas grand public.
Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour. À part pour les gens qui veulent travailler dans le café, évidemment.
D'accord.
À la maison, j'ai envie de dire, le café. Le café qu'il faut boire, c'est celui qui va vous plaire. Alors d'accord. Après, il y a plein de méthodes. Ça va du café filtre au café turc en passant par l'espresso. Et là, ça dépend vraiment beaucoup de ce que vous préférez. Si vous préférez le café très épais, avec beaucoup de corps très concentré, ou quelque chose où c'est plutôt les arômes les plus délicats qui vont s'exprimer.
D'ailleurs, c'est un peu antinomique parce que ceux où il y a les arômes les plus délicats qui vont s'exprimer, j'imagine que c'est les cafés filtres. Et c'est là-dedans qu'il y a le plus de caféine, alors du coup.
Alors, ça, c'est quand même un peu une légende. Il n'y a pas beaucoup plus de caféine dans le café filtre que dans l'espresso. Il peut y en avoir un peu plus, 10%, 20%. Ce qui va beaucoup compter, alors évidemment, c'est le café que vous utilisez. Typiquement, le Robusta, vous avez beaucoup plus de caféine que dans l'Arabica.
D'accord.
Les cafés d'Éthiopie, généralement, vous avez moins de caféine que dans le café du Brésil aussi. En gros, plus les cafés sont en altitude, généralement, moins ils ont de caféine. Et après, c'est aussi la quantité de café que vous utilisez. Si vous utilisez 20 grammes de café pour faire un café filtre et 30 grammes de café pour faire un espresso ou l'inverse,
mathématiquement,
évidemment, dans un cas, vous aurez plus de caféine que dans l'autre.
Ok. Bon, est-ce que tu peux nous donner 2-3 erreurs classiques que tout le monde fait avec le café, du coup ?
Alors, pour les particuliers,
ouais,
à la fin,
ouais.
Alors, je pense que la première erreur, c'est de ne pas choisir une eau adaptée au café ou du moins à ses goûts. Alors, typiquement pour le café filtre, surtout pour les cafés les plus fruités, les plus délicats, il faut une eau peu minéralisée. Alors du coup là, à Montpellier, on n'est pas avantagé là-dessus.
Ouais, pas d'eau du robinet quoi.
Alors à Montpellier, franchement, il faut éviter. Alors en espresso, elle est moins bonne que si vous prenez une eau adaptée, l'eau de Montpellier. Mais gustativement, presque encore, ça irait. Le problème par contre, là, c'est le calcaire, vous allez flinguer votre machine espresso. Mais je pense qu'un très bon conseil à donner aux gens, c'est de tester différentes eaux avec son café. Et tout simplement voir laquelle vous préférez, si vous voyez des différences ou si vous n'en voyez pas. Alors, je ne sais pas si je peux citer quelques marques.
Ah, bien sûr,
bien sûr. C'est pas grave. Alors, dans les classiques qu'on conseille, notamment pour le filtre, vous avez Volvic, qui est très bien pour le filtre et pour l'espresso. Un peu plus adapté pour le filtre, vous avez Grand Barbier, qui est très sympa. Et vraiment à réserver pour le filtre, vous avez une eau encore moins minéralisée, qui est la Morocousse.
Okay, là, dans le haut Languedoc.
Ouais, c'est ça. Okay. Là, vous aurez vraiment beaucoup plus de fruits et beaucoup plus d'acidité aussi.
Donc, ce sont des eaux en fait qui n'ont pas rencontré le calcaire lors du cheminement jusqu'à la source.
Ouais, finalement. C'est ça. Okay. Beaucoup moins en tout cas.
Ok, d'accord. Là, ça, c'est important. Donc, ça, c'est une première erreur et deux, trois autres erreurs que. Enfin.
Alors, il y a quand même une erreur assez grande quand même si on est fan de café. C'est de considérer qu'on puisse se passer d'un moulin. Un moulin, quand même, si on veut du café fraîchement.
Ouais.
Si on a du café fraîchement moulu, pardon.
Ça change, ouais. Ça...
Ouais, ça change quand même vraiment pas mal.
Ok.
Et après, une dernière un peu plus technique, pour ceux qui ont un moulin. Généralement, on a tendance à moudre grossier pour le café en piston et moudre plus fin pour le café filtre, et je conseille vraiment de faire l'inverse.
D'accord.
Nettement plus fin pour le café piston que le café filtre. Et vous verrez que dans les deux cas, ça sera bien meilleur.
D'accord, ok. Bon, bah, si je. Voilà, un petit conseil pratique avant de terminer cette émission. Si demain je veux améliorer mon café à la maison sans mouriner, alors sans parler de l'eau et compagnie, je commence par quoi alors?
Alors du coup, quand même, pour le coup de l'eau, évidemment.
Alors, on achète de la Montrocousse, on a compris, mais après.
En tout cas, au moins pour essayer. Alors en deuxième, surtout si vous commencez à être vraiment intéressé par le café, je pense qu'un bon moulin, c'est pas mal. Plutôt éviter les moulins à lame.
D'accord.
Donc les moulins, tout ce qui est moulins à épices, etc., c'est plutôt à éviter. Je pense que ça vaut pas le coup. Il vaut mieux même faire confiance au moulin du torréfacteur. Donc des bons moulins à meule, à manuel, vous en avez des pas très chers, ça commence à 50€, 100€, etc.
T'as un site que tu peux nous conseiller pour acheter du matériel grand public comme ça?
Alors déjà, vous pouvez venir nous voir. Nous, on a des moulins à manuel qui sont très sympathiques. Et dans les moulins électriques, c'est une bonne question. Alors je sais que Maxi Coffee, pendant longtemps, c'était plutôt réputé. Mais là, ça fait un moment que je ne suis pas allé voir, donc je ne veux pas trop m'avancer. Et après, dans les conseils que je peux donner, c'est de ne pas hésiter à poser des questions au torréfacteur, à l'endroit où vous achetez votre café, si c'est chez un torréfacteur, qui peut vous orienter selon vos goûts. Alors même si vous ne savez pas exactement quels sont vos goûts, le torréfacteur, s'il est bon, il va vous poser des questions, ce que vous aimez, comment vous l'aimez, typiquement qu'est-ce que vous recherchez. Et généralement, on est plutôt de bons conseils.
D'accord. Et le latte art, alors, tu sais, là, le café avec le lait où on fait des jolis dessins avec la mousse de lait, ça fait partie du café de spécialité, ça, ou pas?
Alors, pour moi, non. Ça fait partie de l'expérience coffee shop, ça, c'est sûr. Café de spécialité, non, parce que ça...
Tu peux le faire sans café de spécialité, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis... C'est lié à de l'espresso avec du lait. Et le café spécialité, c'est pas simplement de l'espresso avec du lait. Alors il se trouve que dans les coffee shops modernes, quasi à chaque fois, c'est du café de spécialité. Mais le latte art, c'est, on va dire, une petite partie du café de spécialité.
D'accord, ok. Et le métier s'appelle barista, c'est ça ce nom?
Oui.
C'est quoi, c'est sommelier dans le café?
Alors, je ne suis pas forcément fan du terme sommelier, parce que c'est beaucoup plus proche d'un barman, en fait, tout simplement. C'est un barman spécialisé dans le café. Ou c'est un barman de jour, on va dire. C'est un barman qui est spécialisé dans les boissons non alcooliques, et spécialement le café. C'est un terme qui vient de l'italien. Et bon, voilà, en Italie, on boit quand même beaucoup de café. Beaucoup d'espresso, en tout cas. Mais il n'a pas forcément l'aspect très technique, connaisseur du vin d'un sommelier. Par contre, la grosse différence, c'est que lui, vraiment, il a une activité de préparation de la boisson que généralement un sommelier n'a pas, à ma connaissance en tout cas.
Oui, parce qu'on sert juste du vin dans un verre. Et
Exactement. Okay. Je ne sais pas pour dénigrer du tout les sommeliers, mais c'est le même métier.
Ok, ok. Bon, c'en est où alors le marché du café de spécialité en France? C'est toujours une niche ou ça explose?
Alors, c'est une niche, mais c'est une niche qui explose. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, vraiment, je ne les connais pas très bien. Et selon comment on définit le café de spécialité, notamment au niveau de la note, parce que honnêtement, 80, c'est quand même relativement bas comme note. Typiquement, nous ici, tous nos cafés, ils commencent plutôt vers 84-85. Donc, c'est beaucoup plus restrictif. Donc, selon comment on définit le café spécialité, à mon avis, on est entre 1 et 10% du marché, quelque chose comme ça.
Et coffee shop, moi, quand je dis café spécialité, je dis coffee shop où on peut boire dans un endroit qui n'a plus les codes du café d'angle de rue classique, quoi, c'est ça?
Voilà, je pense quand même, là, j'ai vraiment pas les chiffres, mais c'est. Le coffee shop a quand même tendance à se développer beaucoup plus que ce genre de café-là. Et une des grandes différences dans les coffee shops, c'est à mon avis qu'on ne vend pas d'alcool, ou vraiment que c'est un peu accessoire. Et je pense que la différence, elle est plus là. C'est toujours un lieu de socialisation, c'est aussi un lieu où on peut venir travailler, etc. Mais c'est un lieu où, à la différence du bar de notre enfance, tous les deux, où on avait de l'alcool, des clopes et le baby-foot. Maintenant, là, on est beaucoup plus sur le café, le matcha, etc. C'est vrai que c'est pas la même ambiance, mais on essaie quand même de faire que ce soit un lieu social.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Luc, en tout cas. On peut retrouver Luc au Café Boone, rue des Étuves de la Comédie, et boulevard du Jeu de Paume. Et n'hésitez pas à aller découvrir l'ensemble des autres coffee shops, cafés de spécialité à Montpellier, qui sont cités dans l'introduction. Merci beaucoup, au revoir.
Salut.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
Tout de suite, c'est la chronique actu de Ni Vu Ni Connu. L'AOC Montpérou devient une appellation à part entière. Cette semaine, dans la chronique actu de Ni Vu Ni Connu, on prend la route de la vallée de l'Hérault, direction Montpérou, nichée dans les terrasses du Larzac. Et on ne va pas parler d'un petit détail administratif, non. On va parler d'un vrai moment historique pour le vignoble du Languedoc. Montpérou devient officiellement une AOC indépendante. Jusqu'ici, on parlait d'AOP Languedoc-Montpérou, autrement dit une dénomination géographique au sein de la grande appellation Languedoc. Désormais, Montpérou prend son envol avec son propre nom, sa propre identité, son propre cahier des charges, AOC Montpérou, comme le Pic Saint-Loup, les terrasses du Larzac ou les grès de Montpellier. Et ce n'est pas arrivé en claquant des doigts, c'est l'aboutissement d'un très long travail collectif. Le syndicat existe depuis 70 ans, Montpérou faisait partie des fondateurs des Coteaux du Languedoc dans les années 60, et la reconnaissance aujourd'hui vient valider des décennies de patience, de rigueur, de délimitation parcellaire, de choix de cépages, de travail sur les rouges, et surtout d'attachement à un terroir. Alors Montpérou, c'est où exactement? C'est ce village magnifique à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier, posé entre la vallée de l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert, Agnan, Gignac, Le Causse, la Garrigue, les Pierres Sèches et le mont Saint-Baudile qui domine tout ça du haut de ses 848 mètres. Déjà, le nom en dit beaucoup. Montpérou, en occitan, c'est le Mont Pierreux. Et quand on arrive là-bas, on comprend vite pourquoi. C'est un vignoble de coteaux, de cailloux, de reliefs, avec des parcelles entre 120 et 350 mètres d'altitude, exposées plein sud mais rafraîchies par la tramontane et par les écarts de température entre le jour et la nuit, par le Causse voisin du Larzac. Bref, on est dans un Languedoc solaire, mais pas caricatural. Un Languedoc de fraîcheur, de vent, de garrigue, de calcaire, de sol ancien, avec cette tension permanente entre maturité méditerranéenne et équilibre. Et ce terroir, il donne quoi dans le verre? Eh bien, Montpérou, aujourd'hui, c'est une appellation exclusivement dédiée aux vins rouges. Des rouges de garde, des rouges structurés, mais qui doivent garder de la fraîcheur, de la finesse de tanin, et cette signature aromatique très languedoc, fruits mûrs, garrigues, poivres, fleurs séchées, parfois réglisse, parfois zan. Et au cœur de cette identité, il y a un cépage qui revient sur le devant de la scène, le Carignan. Longtemps dénigré, parfois arraché, parfois réduit à un cépage de volume, le Carignan est ici revendiqué comme un emblème. À Montpérou, certains vignerons ont toujours cru en lui. On trouve encore de très vieilles vignes, parfois âgées de 80 ans, et dans ce terroir de plus en plus sec, le Carignan apporte justement ce qu'on recherche aujourd'hui, de la structure, de l'acidité, de la fraîcheur, de la complexité et un vrai potentiel de garde. Mais là où c'est Montpérou, ce n'est pas du monocépage. Le cahier des charges impose au moins 3 cépages dans l'assemblage, avec 4 cépages principaux, Carignan, Grenache, Mourvèdre et Syrah. Et en complément, on retrouve le fameux Cinsault, et puis ensuite des cépages un peu plus modestes, comme la Counoise et le Morastel. Et les vins doivent être, en revanche, élevés jusqu'au 15 octobre de l'année qui suit la vendange, c'est-à-dire quasiment un an, voire même plus d'un an. Ce qui accompagne cette ambition de rouge sérieux, construit et capable de vieillir. Alors en chiffres et pour terminer, cette nouvelle appellation reste très humaine. 595 hectares délimités, 35 producteurs, dont 16 domaines et 19 coopérateurs, pour environ 500 000 cols par an. On est donc loin d'un mastodonte, on est sur une appellation village, de collectif et de précision. Alors, le collectif, c'est évidemment l'une des forces. On va parler de domaines, et il y en a des noms bien connus des amateurs de vin du Languedoc. Domaine d'Aupillac, Alain Chabanon, Cassagne et Vitaille, Mas d'Amil, Mas d'Ekern, Villa d'Ondona, domaine de l'Aiguelière, domaine des Gréco, Castelbarry et d'autres, si j'en oublie. Des vigneronnes et des vignerons, des caves particulières, une cave coopérative, bref, un tissu vivant. Et dernier point très important, Montpérou affiche aussi une vraie dynamique environnementale, et ça on aime chez Divergence. Selon le dossier de presse, 80% du parcellaire est sous label environnemental. C'est beaucoup. Et c'est aussi beaucoup de bio, de biodynamie et des mesures collectives fortes. Interdiction du désherbage chimique interrang, développement de la confusion sexuelle, entretien mécanique, surveillance collectif de la fameuse flavescence dorée. Là aussi, ce n'est pas seulement un discours, c'est un territoire qui a bossé. Voilà, il y a un paysage, il y a une histoire, des cailloux, du vent, des carignans, des vignerons qui ont tenu bon, et des vigneronnes aussi. Et finalement, c'est peut-être ça la bonne nouvelle dans le Languedoc immense, parfois difficile à lire pour les consommateurs. Montpérou affirme une identité forte et simple. Allez, à bientôt.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie, à votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni bu ni connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage aux vignobles du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un tabouret en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, t'as presque genre... T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.